vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 151. Aurélie Penet, Falk, Fuchs et Fox. Chers amis, bonjour. Ah, vous avez reconnu, c'est le Fox terrier qui est dans le studio. Alors, il est blanc, taché de brun, et c'est l'un des héros d'une histoire pas trop cauchemardesque, mais pourtant mortelle. Et ça se passe ici, en Alsace, puisque Madame Lehmann, qui est tueuse à gages, vient de débarquer. Alors j'ai en main son journal de bord, c'est un gros bouquin bleu avec une cigogne bien sûr en couverture, et j'ai aussi devant moi l'auteur du crime, Aurélie Penet. Bonjour Aurélie Penet.
Bonjour Ambroise.
Alors on a compris qu'il s'agit d'un roman policier dont le titre c'est « La cause racine ». Alors dans le roman, il n'y a aucun bistrot qui s'appelle « La cause racine ». Et puis, il n'y a pas de prof de maths hein, pour les racines racines cubiques. Alors, pourquoi ce titre ?
Alors, le choix du titre m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai trouvé à la fin et il a été assez controversé. Dans mes ateliers d'écriture, je vous en parlerai après si vous voulez.
Bien sûr.
La cause racine dans le milieu scientifique. J'aime bien dire que je suis scientifique la journée, la semaine et que j'écris
et
le week-end.
Et la nuit, vous écrivez.
Exactement. Enfin, la nuit, plus trop, mais plutôt le week-end. Et la cause racine, en fait, dans le milieu des sciences, c'est quand on recherche la cause profonde, c'est-à-dire celle de laquelle tout découle, en fait. Et c'est ce que je voulais essayer de transmettre avec ce titre. Et donc, la cause de tout ce qui est en train de se produire dans le roman a une origine bien plus profonde. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la psychogénéalogie. Donc, sans faire de psychologie de comptoir, il se passe des histoires dans les familles qui sont cachées, des non-dits, des choses qui peuvent avoir des répercussions sur les générations futures, à venir. Je crois que ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 générations.
Oui, le crime de l'arrière-arrière-grand-père.
Exactement.
Qui continue à hanter, consciemment ou non, les générations.
Absolument.
Oui. Alors, mais alors, ça aurait pu être la cause du peuple aussi, mais non, c'est
ça
pas
aurait ça. Pu, ça aurait pu, mais voilà, il faut, à un moment donné, il faut choisir un titre. J'aimais bien aussi le mot racine, parce qu'il faisait référence à l'arbre généalogique, l'arbre, les racines. Donc voilà, il y avait plusieurs choses dans ce titre qui me plaisaient bien.
Oui, et puis on aurait pu penser aussi aux grands hommes de théâtre.
Ah oui, non, donc, alors, je vais pas cette prétention.
On est mal parti, voilà.
Oui.
Oui. Bon, et puis aussi, sucer les pissenlits par la racine.
Ah, ça aurait bien marché aussi. Oui, merci. Oh, je vais garder cette idée pour la prochaine
voilà.
fois.
D'accord. Mais alors, donc, vous êtes romancière, mais pas que.
Hein? Non, pas
non.
que.
Non. Donc, vous êtes une scientifique.
Oui, une scientifique. Alors, même si, après mes études, finalement, je n'ai pas fait beaucoup de sciences, ou en tout cas pas très longtemps, mais je travaille dans le milieu... on va dire technique plutôt que scientifique, dans le milieu industriel. Et c'est quelque chose que j'adore aussi. Et donc faire un choix entre la technique et la littérature, ça n'a pas été possible. Donc en fait, voilà, je fais les deux. J'arrive à partager mon temps comme ça. Le week-end, j'anime aussi des ateliers d'écriture sur Strasbourg à l'association des résidents de l'Esplanade. Donc des ateliers d'écriture pour adultes. Et voilà, je partage mon temps comme ça entre deux passions.
Et vous avez le temps de faire les deux ? Vous n'avez pas une cause cornélienne, comme on dit Non, mais alors, beaucoup de gens commencent à écrire à la retraite. Bon, vous n'êtes pas encore retraité, vous écrivez juste pour le plaisir, si je comprends bien.
Absolument.
Et
oui.
Ça, c'est formidable. Et. J'ai vu que vous étiez, alors je vais quand même dire, parce que vous êtes très modeste, ingénieur dans le génie de procédé.
Absolument.
Comme on comprend absolument pas ce que ça veut dire. Vous êtes génial, bien sûr.
Voilà.
Mais le génie de procédé, vous procédez à quoi ?
Les génies des procédés, c'est les procédés de fabrication, c'est tout ce qu'on trouve dans l'industrie, les usines en fait. C'est à la base, ingénieur en génie des procédés, ça sert à construire des usines, à dimensionner des usines pour fabriquer toutes sortes de produits. En l'occurrence, moi, mes études, c'était dans la chimie, donc des produits chimiques. Et donc, voilà, quelle dimension, quel packaging, quel matériau, quel...
L'approvisionnement, les
l'approvisionnement,
camions,
oui, tout à fait,
voilà,
ouais,
tout ça. Et alors, on peut dire, vous travaillez donc à Soultz-sous-Forêt.
Oui,
dans l'Outre-Forêt. Hein,
oui,
après,
c'est bon,
après la forêt de Haguenau, il y a encore quelque chose tout en haut. Et vous fabriquez alors un truc assez étonnant. Moi, je ne savais pas qu'on fabriquait ça à Soultz-sous-Forêt. Je connais la géothermie, il y a le pétrole à Pechelbronn.
Oui, et, ben on est juste à côté, effectivement.
Oui, oui. Et alors, c'est des ponts.
Des ponts flottants, oui.
Des ponts flottants que Jules César, qu'on aime bien ici dans notre émission, aurait pu utiliser lorsqu'il a construit trois ponts, hein, on sait ça dans les archives, pour aller foutre la pâtée de l'autre côté du Rhin. Et quand il est revenu, victorieux, il a détruit les ponts pour que les autres ne puissent pas revenir, ce qui est stratégiquement assez intéressant. Mais les ponts flottants, alors une autre digression, c'est sur la Bérézina, hein, qui a permis à l'armée de Napoléon de revenir. Et vous faites des ponts, pourquoi ?
Des ponts flottants, mais exactement pour ce que vous venez de dire, parce que dans les conflits, ce qui est détruit en premier, c'est les ponts. Donc pour pallier à ces problématiques-là, les armées utilisent des ponts flottants. Alors longtemps avant que les conflits ne reprennent, il y a quelques années, les ponts flottants étaient utilisés aussi dans les pays qui subissaient des inondations pour secourir les populations en cas de crue. Et puis finalement, maintenant, malheureusement, on revient un petit peu aux fondamentaux du franchissement. Et donc ces ponts flottants, alors non seulement ils sont fabriqués, mais en plus ils sont conçus. On est une centaine d'employés chez CEFA. Et donc on les conçoit, on les fabrique et on les vend aux différentes armées, notamment françaises.
C'est des ponts flottants, donc c'est des, je sais pas, c'est du caoutchouc, c'est des boudins.
Ah, il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes. Il y a des sortes avec des boudins, des boudins flottants, des flotteurs en une sorte de caoutchouc
gonflable,
finalement, gonflable. Oui. Et il existe aussi d'autres sortes avec des caissons métalliques. Il y a différents types de ponts flottants.
Et alors, vous vendez des ponts flottants aux deux côtés des belligérants, ou est-ce que le Quai d'Orsay ou l'armée ou la France vous interdit de le vendre à nos
règles.
Ennemis?
Il y a des règles, bien sûr.
Il y a des règles.
Oui.
Vous n'êtes pas militaire, non?
Non, on est une société privée.
Oui, mais vous travaillez pour l'armée alors indirectement ou...
C'est un client.
Ah, c'est un client.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, je me souviens d'avoir lu dans des livres d'histoire que la première chose que l'on fait lorsque l'on envahit un pays, c'est de détruire les ponts. Vous l'avez évoqué. Mais c'est une métaphore aussi, parce que au lieu de se faire la guerre, on peut discuter, c'est-à-dire négocier, c'est-à-dire établir des ponts. Et là, au sens figuré.
Tout à fait.
Et oui, du coup, vous seriez au chômage. Mais, bon, malheureusement, les négociations, souvent, ça ne marche pas très fort. Mais comment est-ce que vous faites pour suivre... Et après, on parlera du bouquin, quand même. Hein, parce que comment vous faites pour suivre l'actualité et et anticiper, je sais pas, un conflit pour dire, bon, là... il y a la rivière Sieptre qui sépare les deux côtés, voilà, donc ils vont avoir besoin de ponts, donc vous fabriquez les ponts à l'avance.
Ah, on ne les fabrique pas à l'avance.
Non, il faut une commande.
Oui,
d'accord.
Tout à fait, oui.
D'accord, alors par exemple la Moldavie qui veut rentrer dans l'Union Européenne, bienvenue, mais qui est bordée par une rivière et de l'autre côté il y a l'Ukraine. Ils auront besoin de ponts pour traverser.
Eh bien, s'ils nous entendent, passez commande, n'hésitez pas.
Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour écrire un roman policier ?
Ah, j'ai toujours eu envie d'écrire un roman policier. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup des Agatha Christie. Enfin, plus jeune, à l'adolescence.
Et à 12 ans, vous avez écrit Le Poignard Maudit.
Oui,
ah,
vous êtes bien renseigné,
dis donc. Je me suis renseigné sur vous, voilà. C'est un truc dingue, à 12 ans, on lit Les Clubs des Cinq.
Alors, je les ai lus aussi, effectivement, oui. Mais en fait, ce que j'adorais dans ces bouquins, c'était la façon dont le lecteur était mené par le bout du nez. pour être baladé, perdu, pour enfin l'amener à la solution finale, enfin la solution à la résolution du crime. Et j'ai toujours eu envie d'en écrire un moi aussi. Donc La cause racine est le premier, parce que finalement Le poignard maudit, je ne sais même pas où est le manuscrit, mais il n'a pas été terminé. Et donc je suis ravie d'avoir pu mener l'enquête jusqu'au bout.
Voilà, commencer un roman, c'est comme acheter un billet low cost, on n'est pas sûr de pouvoir revenir, donc on ne le termine pas. Mais là, vous l'avez terminé, vous l'avez édité. Voilà.
Absolument, voilà. Oui.
Alors, avant de raconter l'histoire, on peut parler un tout petit peu du contexte. Bon, il y a une cigogne en couverture. Alors, c'est vous qui avez choisi la cigogne? Ça fait quand même un peu gnangnan, non?
Non. C'était représentatif de
l'Alsace. On a l'impression d'être devant, dans les boutiques de souvenirs, devant la cathédrale, avec les cigognes made in, je ne sais pas où, au Bangladesh, et qu'on vend aux touristes chinois, d'ailleurs. Non, c'est... Pourquoi? C'est pour montrer que ça se passe vraiment en Alsace ou...
Oui, il y a ça. Et puis, vous savez, il y a le choix de l'éditeur aussi, hein, qui donne son avis sur la couverture. Donc,
il s'est dit, on va vendre
ah
ça
oui,
en
là,
Bretagne.
On va faire le buzz avec ça.
Voilà. Alors, vous avez beaucoup voyagé. Et oui. Les voyages, ça forme la détresse. Alors, c'est pour rimer. Voilà. Est-ce que cette détresse, peut-être, ou alors cette nostalgie, ou le fait d'avoir voyagé vous a donné envie, justement, de raconter une histoire qui, quand même, vachement tordu, quoi. Enfin, ce qui est bien, c'est un peu féministe, hein, puisque la tueuse à gages, c'est une femme. Mais qu'est-ce qui vous a donc donné l'envie de raconter une histoire comme cela, et avec un récit très haché, avec plein de péripéties?
Bah, c'est le style qui veut ça. Hein, je trouve que pour ne pas s'ennuyer dans un thriller plus qu'un policier, il faut... il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des rebondissements. Donc, j'ai choisi de l'écrire de cette manière-là pour ne pas que le lecteur s'ennuie.
Ça m'a fait penser au roman de la fin du 19e, où effectivement, il y a une péripétie toutes les deux pages, quoi. Hein, puis avec des trucs qui restent en l'air, on ne sait pas très bien, puis en plus ça revient, avec des personnages qui sont quand même assez étonnants. Falk et Fuchs, bon, ça c'est pour prendre des noms alsaciens.
Absolument, oui.
Voilà. Et alors, votre Alsacienne, Lehmann, vous l'appelez Morgane. Bon, c'est pour l'allitération, je suppose.
Oui, il y a de ça, oui, effectivement, il faut que le nom soit
bien. Mais vous auriez
pu
l'appeler Christiane.
Christiane, non, Lehmann. Non, j'ai hésité à l'appeler Maud aussi, mais Maud, ça sonnait moins bien,
Maud
je
Lehmann.
Trouve. Non,
oui, alors c'est Morgane. Morgane, c'est un peu à la mode aussi, comme, je sais pas, Kevin. Non. Non, je vous embête là. Bon, alors racontez-moi l'histoire, donc, chère Aurélie Penet, de La cause racine.
Eh bien, c'est l'histoire d'une ancienne tueuse à gages qui s'est un petit peu rangée, qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique et qui est sur le point de mettre sur le marché une molécule contre la maladie d'Alzheimer. Et donc, pas de bol, elle apprend que sa grand-mère est atteinte de la maladie, donc elle voudrait pouvoir utiliser la molécule, ça tombe bien quand même, et bah, quelqu'un va l'en empêcher. Et donc, elle va...
Parce que c'est un concurrent.
Ah, je ne sais pas, il faudra lire le livre pour savoir.
Oui,
mais en tout cas,
mais
quelqu'un
oui.
va vouloir l'empêcher d'utiliser cette molécule, et pourquoi ça, c'est ce qu'elle va découvrir en menant sa petite enquête.
Voilà. Vous voulez pas dévoiler...
Ah ben non, surtout pas.
Ah
on
bon,
dévoile
d'accord.
pas la fin.
Ah bon,
non,
c'est pour ça que moi, je voulais pas le dire. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire. Donc, chers auditeurs, cherchez la cause racine et vous verrez pourquoi cette molécule... voilà. Et tout. Alors, je fais une digression encore. Mm-hmm. J'avais un prof de sciences nat en 6e à Haguenau. Alors, si quelqu'un s'en souvient, contactez-moi. On l'appelait molécule Georges. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et on découpait des grenouilles avec lui, molécule Georges. Voilà, donc c'est un mot qui est assez joli. Voilà. Alors, il y a souvent dans un premier roman... alors vous, quand on le lit, on a l'impression que c'est votre 10e, parce que ça coule comme un fleuve. Hein.
Oh, merci.
Ah oui, non, c'est vrai, c'est sérieux. C'est super torché, comme on dit littéralement. Il y a souvent une part d'autobiographie. Bon,
je ne suis pas tueuse à gages, si c'est la question.
Vous n'avez pas une tête de tueuse à gages, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent peut-être de vos voyages ou de les coq-à-l'âne, comme ça. Tout ça, ça vient de votre vie peut-être un peu chaotique.
Alors, je ne dirais pas que ma vie est chaotique, il y a quand même un fil directeur. Par contre, ce qu'on peut retrouver de moi dans ce bouquin, c'est une première parce que... tout le monde me demande si je suis la tueuse à gages, mais j'ai jamais raconté le reste.
C'est un gag.
J'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit qu'il était quand même toujours plus facile d'écrire sur quelque chose qu'on connaissait que d'imaginer 100%. Donc effectivement, je reprends l'Alsace, les quartiers strasbourgeois que je connais bien. Je reprends tout le monde du laboratoire. Alors, j'ai pas travaillé en pharmacie, mais le monde du labo, les sciences, etc., je le connais aussi. Et donc voilà, c'est ça finalement que je tire de mon histoire. Le reste est pure fiction.
Et alors, vous avez choisi de faire beaucoup de dialogues pour faire avancer le récit.
Oui.
Et c'est souvent quelque chose d'assez, disons, artificiel, et c'est difficile, parce que le dialogue permet les clichés. Et vous évitez ces clichés, donc enfin, je me permets de faire comme ça critique littéraire. Est-ce que ça vient de votre expérience des ateliers d'écriture en gros, vous êtes prof d'écriture avant même d'avoir déjà écrit un roman.
Alors, prof, oui, c'est un bien grand mot. J'ai été longtemps participante à un atelier d'écriture, donc je suivais moi-même un atelier d'écriture dans lequel on travaillait. Alors, c'est pas vraiment apprendre, c'est quand on est dans un atelier d'écriture, finalement, on écrit de manière un petit peu dirigée par des consignes. Et puis ensuite, ce qui est très enrichissant, c'est qu'on lit nos textes à haute voix avec d'autres personnes qui nous font des commentaires et des retours. Donc, quand il y a des clichés ou des dialogues qui ne fonctionnent pas, en le lisant à voix haute, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et alors, les autres participants, ils vous ratent pas. Hein. Une fois que la confiance est établie et qu'on ose se dire vraiment ce qu'on pense les uns des autres,
Vous parlez de consignes, mais c'est pas des contraintes, la fameuse contrainte de l'Oulipo.
Ah si, il y en a aussi. Alors, j'ai fait pendant longtemps, j'ai participé aux ateliers, et puis quand l'animateur Jean-Pierre Rigaud a choisi de laisser sa place, j'ai pris le relais, et donc maintenant je les anime. Si, je m'inspire de l'Oulipo. Si, c'est des contraintes. Ah. La contrainte génère la créativité, voilà. Et je trouve ça formidable, oui.
Alors, une tueuse à gages sans pistolet, comme la disparition de Pérec sans la voyelle E, ça serait possible?
Ah, bah d'ailleurs, elle n'a pas de pistolet, oui.
Oui, on ne sait pas, oui.
Excellent, oui, sans lui.
C'est pas mal d'avoir un héros qui, en fait, tout est dans le passé. Donc, ça permet de projeter un petit peu des fantasmes comme ça, ou des non-dits aussi.
Il y a des non-dits, il y a... Il y a l'histoire du personnage. En fait, j'aime bien creuser la psychologie du personnage, savoir pourquoi il est devenu comme ça et pourquoi il agit comme ça aujourd'hui, et les liens entre les personnages entre eux. Je trouve que ça explique tout. Et puis finalement, on est tous pétris de ça, de notre histoire familiale et des choses qui s'y sont passées, qu'on a plus ou moins dites.
Oui. Alors justement, vos enfants ou votre mari, lorsqu'il a lu le roman, est-ce qu'ils les ont lus d'abord au fur et à mesure les chapitres? Tiens, j'ai fini un chapitre, tu le lis, où vous n'avez rien donné, et ils l'ont lu dans le livre quand c'est sorti, et après ils ont dit, ah mais là, c'est quand on est allé voir la tante Marguerite, et là, c'est quand... Non, comment ça se passe?
Sur ce premier roman, j'ai pas fait lire au fur et à mesure à mes proches. J'ai fait lire dans les ateliers d'écriture, parce qu'on est un petit groupe à écrire des romans, donc on se lit les chapitres au fur et à mesure, donc ça aide beaucoup, et puis ça aide aussi à terminer, parce que c'est facile de commencer, c'est difficile de terminer.
La persévérance, c'est peut-être la plus grande qualité pour un écrivain.
Absolument, absolument.
Surtout amateur, mais vous êtes amateur,
mais
c'est au sens noble du terme.
Oui.
Et
je pense que pour le prochain roman, je ferai différemment, je le ferai lire...
Il y en aura un autre.
Oui, il y en aura un autre. Il est sur la fin. J'arrive au moment justement où je voudrais pouvoir le faire lire à mes proches pour qu'ils me donnent leur ressenti avant qu'il sorte.
Leur ressenti ou alors simplement... Quelle a été la réaction de vos proches, alors justement?
Oh, ils étaient fiers.
Oui. Oui. Bah oui, on est toujours fiers de
bien
sa
sûr.
Maman. Oui, ça c'est,
bah oui.
Oui, c'est normal. Mais il n'y a pas d'autres gens qui ont dit... Alors, est-ce que ce n'est pas vexant lorsque certains de vos proches vous dire « Ah, c'est bien, mais ils ne l'ont pas lu. » Vous vous rendez compte qu'ils ne l'ont pas lu. Moi, j'ai un exemple très précis.
C'est vrai. Oui. Non, moi, ça ne m'est pas arrivé.
Tu n'as pas le temps. « Papa, je n'ai pas le temps de lire ton truc. » Voilà, voilà.
Oh non, mais ça, c'est pas vexant. Non, alors, il y a ceux qui l'ont lu, qui ont compris de travers. Alors, bon, là, ok. Donc, je me dis, j'ai peut-être mal expliqué la fin. Puis après, mais non, mais j'assume ma fin, c'est pas grave. S'ils n'ont pas compris,
c'est pas grave si on comprend pas.
Grave.
Oui.
Non, j'ai pas eu de réaction qui m'ont fait douter ou qui m'ont fait tiquer.
Non.
Non.
Voilà. Et alors, est-ce que les gens de votre atelier d'écriture, du coup, ils sont stimulés par vous, puisque là, vous êtes la responsable,
oui.
L'animatrice.
Oui.
Est-ce qu'ils écrivent eux-mêmes des romans ou est-ce qu'ils ont terminé des romans ?
Alors, l'atelier que j'anime le samedi matin, on n'est pas sur du roman, on est plutôt sur des petites nouvelles, des courts récits. Donc, et on édite un recueil quand même à la fin de l'année collectif, de textes collectifs. Un recueil collectif de textes, pardon. Par contre, dans un autre atelier qui est toujours animé par Jean-Pierre Rigaud le jeudi, là on est plusieurs à s'auto-stimuler pour écrire des romans. On est une poignée, on est cinq et ça fonctionne bien.
Aurélie Penet, on arrive à la fin de notre émission. Dites-moi quand même, pourquoi ils ne veulent pas de cette molécule Alzheimer à Louise? Vous voulez pas nous le dire?
Non,
non, elle ne le dira pas. Bon, bah écoutez, c'était l'épisode numéro 151. Aurélie Penet, Falk, Fuchs et Fox, la cause racine, polar et tueuse à gages. Alors, mais quand même, la cigogne en couverture, je reviens, c'est pour prouver que vous êtes une bonne Alsacienne?
Ah, j'attendais cette question.
Ah bah oui.
J'ai la recette.
Et voilà, j'allais vous demander, est-ce que vous avez la recette de la tarte au fromage?
J'en ai une et elle n'a pas de pâte, si vous voulez tout savoir.
Alors, dites-moi.
Vous voulez la recette?
Ah bah oui.
Je croyais qu'on n'avait pas le droit de la donner.
Mais si, on a encore 2 minutes.
Ah, et ben, il y a du fromage blanc. Il y a un peu de sucre et il y a ces horribles sachets de pudding dedans.
Ah oui,
et
c'est une bonne idée ça.
Et ça marche bien, je crois qu'il faut un vanille et un chantilly, il y a des œufs.
Oui, c'est franco-russe là, ou alors, enfin ça c'est peut-être autrefois dans mon enfance, oui. Ou Ancel, où on donne des marques.
Oui,
à
je
la...
crois que c'est ça.
Ah, oui,
je crois
c'est
que ça. C'est ça.
Et vous, ah oui, donc ça. Moi, je mets de la maïzena, mais.
Ah non, je ne l'ai pas dans ma recette.
Bon, alors il y a plusieurs recettes de tarte au fromage. Voilà. Alors la semaine prochaine, on va faire rayonner la culture française aux quatre coins du monde avec Jacques Vallée et les Alliances françaises. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.